voix nue. Cette semaine, de lundi à vendredi, Victor Massé de l'Épinay rencontre Jacques Vendroux. Ce soir, une vie de Coupe du Monde.
Bonsoir Jacques Vendroux.
Bonsoir.
Aujourd'hui, nous allons parler de vos Coupes du Monde, Jacques Vendroux. La Coupe du Monde a commencé hier en Russie. Demain, l'équipe de France joue son premier match. Je voudrais avec vous rebalayer un peu toute votre carrière et toute votre vie en prenant ces jalons qui sont tous les 4 ans les Coupes du Monde. Peut-être commencer avant vos Coupes du Monde couvertes pour la radio professionnellement par la Coupe du Monde de 58, qui est une Coupe du Monde qui a marqué la France. Vous aviez 10 ans à l'époque. La Coupe du Monde 58 en Suède, c'est l'équipe de Coppa, de Fontaine, de Piantoni. Est-ce que vous en avez des souvenirs? Qu'est-ce que ça vous évoque, cette première grande génération du football français?
Ben, c'est mes premières idoles. C'est-à-dire que j'ai 10 ans, je vais regarder, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, la télévision chez mon grand-père, en noir et blanc. Et nous suivons avec mon père et mon grand-père tous les matchs de l'équipe de France. On découvre Pelé, on découvre, je veux dire, un certain nombre de grands joueurs. Et évidemment, même si on les connaissait de nom, on fait mieux connaissance avec Roger Piantoni, avec Dominique Colonna, avec Justo Fontaine, avec Raymond Coppa. Enfin, je veux dire, bon, c'était mes premières idoles footballistiques, avec d'autres, on en a déjà parlé. Le maillot était magnifique, maillot bleu, avec un petit coq, je veux dire, il n'était pas aussi gros que celui de maintenant. C'était ma passion. Et puis en plus, le contexte était formidable parce que j'étais encore chez mes grands-parents, avec mon père, on regardait les matchs. Les matchs avaient lieu en fin d'après-midi. Il y avait un cérémonial, il y avait un goûter préparé par ma grand-mère. Et il fallait surtout pas qu'on nous dérange. Enfin, mon grand-père voulait pas qu'on lui adresse la parole. Mon père, pareil. Enfin bon, je vais dire, ils ont tout fait pour que ce soit un merveilleux souvenir pour moi. Et sportivement, ils ont terminé 3e quand même de la Coupe du Monde, faut pas l'oublier.
La première Coupe du Monde pour laquelle vous avez travaillé, c'est 66, celle de l'Angleterre. Vous l'avez très brièvement évoqué en début de semaine. Est-ce que quand même vous pouvez nous raconter un peu ce que c'était en 66, couvrir une Coupe du Monde? Vous étiez donc un tout jeune journaliste, 18 ans. Vous veniez de rentrer à l'ORTF quelques mois auparavant et vous partez pour la Coupe du Monde pour voir votre idole Gordon Banks. Qu'est-ce que vous faisiez à cette Coupe du Monde et quels souvenirs vous en gardez? Dans quelles conditions est-ce que vous travaillez?
Je fais des fiches pour Thierry Roland et Mario Benin. Et je faisais des allers-retours sur Paris pour ramener des reportages, pour passer dans le journal télévisé de l'époque, et je repartais. J'ai passé ma vie dans un avion que je prenais au Bourget, qui était Paris-Londres, et puis je retrouvais Thierry régulièrement, et puis je préparais des fiches, je regardais à droite et à gauche des renseignements, j'allais à l'entraînement de l'équipe de France de football avec lui, donc j'étais son collaborateur, mais j'étais tellement content d'être là, c'était le rêve de ma vie, et en plus là aussi j'ai encore de la chance, parce que je vois les joueurs en vrai, qui sont mes idoles à l'époque, et je vois surtout les Anglais, parce que Thierry allait faire des reportages sur les Anglais. Je vois Banks en vrai, je vois Bobby Moore en vrai.
Charlton.
Les frères Charlton. Extraordinaire. Enfin, je veux dire, voilà, là, c'est celle qui a été aussi... Alors, le détonateur était évidemment toute mon enfance pour le football, mais mon amour sur le foot, il est passé encore à une vitesse supérieure, parce que j'avais devant moi des monstres. Et en plus, la France est malheureusement éliminée assez rapidement, dès le premier tour, mais je veux dire, à la limite, bon, j'étais déçu, mais j'étais tellement content de voir, je veux dire, les Anglais, parce que moi, les Anglais, j'ai toujours adoré le football anglais, et donc, là, j'ai, en plus, ils terminent champion du monde, donc, tout est exceptionnel. Cette première Coupe du Monde, pour moi, tout est exceptionnel.
Et ensuite, les suivantes, 70, 74, vous n'y allez pas, la radio ne vous envoie pas couvrir la Coupe du Monde, c'est des... déchirement à chaque fois.
Non, mais il y avait des vents. Non, mais c'est pas des déchirements. C'est, je veux dire, il y avait un respect. Il y a des gens qui commentaient le football avant moi, et c'est normal qu'ils aillent au Mexique pour cette Coupe du Monde qui a été sans doute l'une des plus belles Coupes du Monde de toute l'histoire. C'était un moment historique.
Alors la première Coupe du Monde pour laquelle vous avez été véritablement commentateur, c'était laquelle, Jacques Vendroux?
C'était on est en 74 en Allemagne. Je fais des allers-retours, là aussi, parce qu'à l'époque, il y avait que France Inter, donc on faisait des flashs. Donc on nous renvoyait à Munich ou dans d'autres villes allemandes faire les flashs sur France Inter pour commenter l'équipe de France de football, plus des interviews, plus des papiers, plus des magazines qu'on envoyait de Munich ou de toute l'Allemagne pour France Inter. Voilà. C'était ma première Coupe du Monde avec Bernard Père et Thierry Roland. Thierry Roland qui avait quitté la télévision après les événements de 1968 et qui avait retrouvé les sports de Radio France, enfin de France Inter.
Et donc vous travaillez à ses côtés ?
Encore.
Encore.
Il n'a jamais quitté ma vie. Je l'ai rencontré le 2 mai 66. Je l'ai quitté allez, 15 jours avant son décès. Il n'a jamais quitté ma vie. Je l'ai eu au téléphone tous les jours pendant cette période-là. Vous vous rendez compte ? C'était celui avec qui je parlais le plus. C'était celui avec qui je déconnais le plus. C'était celui avec qui j'ai passé plus de vie, plus de moments dans ma vie avec lui qu'avec la mère de mes enfants, qu'avec mes propres enfants. Il faisait partie de moi. Il m'a toujours considéré comme son petit frère. Et là aussi, on repart en Coupe du Monde. J'étais parti en Coupe du Monde pour travailler pour lui en 66. On repart en Coupe du Monde en 74. Et puis là aussi, vous avez, vous avez des joueurs mythiques, hein. Vous avez l'équipe d'Allemagne, Gerd Müller, Beckenbauer, Breitner, Sepp Meyer, l'équipe
des Pays-Bas,
la finale, Johan Niskens qui est venu jouer avec le Variété après, Johan Cruyff. Non mais c'était un rêve éveillé. Un rêve éveillé d'un gamin qui adorait ça, qui aurait voulu être international, qui aurait voulu être le meilleur gardien de but du monde. Donc je commentais, je participais à toutes ces grandes compétitions par procuration.
Alors puisque vous évoquez Thierry Roland et ce métier de commentateur, est-ce qu'on peut faire un petit peu, je voudrais avoir un peu votre avis sur ce métier, peut-être la façon dont Thierry Roland le pratiquait, puisqu'il a été aussi parfois critiqué, non seulement pour ce qu'on a pu qualifier de dérapage ou de maladresse au micro, mais il avait aussi une façon de commenter qu'il revendiquait comme étant un commentaire peut-être plus populaire que savant. Ou est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce que vous avez, vous, dans votre façon de commenter, une fidélité à ce que vous avez appris avec Thierry Roland, par exemple ?
Non, mais d'abord, on ne peut pas comparer la radio et la télévision, déjà au départ. Et quant à Thierry Roland, il avait une qualité incroyable. C'est qu'il ne se rendait absolument pas compte qu'il parlait à 8 millions, ou 10 millions, ou 15 millions, ou 21 millions de téléspectateurs dans les matchs extrêmement importants. Thierry, il était normal. Thierry, il s'adressait à ses téléspectateurs comme il s'adressait quand il allait manger son plat de pâtes, régulièrement avec nous dans des restaurants italiens, etc., etc. Thierry n'a pas changé quand il est avec nous à table et quand il est avec Jean-Michel Larquet ou Bernard Père à ses débuts, comme commentateur de la télévision. Alors Thierry, il a fait des gaffes, mais il a fait des gaffes qui sont pardonnables. C'est-à-dire que quelque part dans un match extrêmement important où le football, a un rôle sur le plan financier capital pour l'avenir d'une équipe nationale ou même pour l'avenir d'un pays, etc. Il a critiqué le fait que c'était peut-être pas le bon arbitre, c'était une parole malheureuse, il l'a regretté. Il a fait d'autres... Enfin, écoutez, quand on parle de Thierry Roland, il a commenté pendant pratiquement 50 ans. Bon, il a peut-être fait deux ou trois boulettes. Ouais, veut dire, c'est quand même pas énorme, hein. C'est quand même pas un drame. Quand Thierry est parti, ça a été un événement... malheureusement national, hein, je m'en souviens très bien. C'était un moment très douloureux. Moi, j'étais en Ukraine.
C'était pendant l'Euro,
oui,
2012.
Oui. Et sa femme m'appelle, il est 6 heures du matin, pour me dire que Thierry est parti. Voilà. Et je suis venu tout de suite l'aider à organiser les obsèques parce qu'elle voulait que je vienne l'aider. Et puis voilà. Donc, c'était un moment. C'était un moment tragique dans ma vie, parce que je perdais, je suis retourné après à Kiev continuer le championnat d'Europe, puis après je rentre à Paris et je me retrouvais comme un con parce que je ne savais plus qui appeler pour raconter des conneries.
Continuons un peu, Jacques Vendroux, à dérouler ces Coupes du Monde. On ne peut pas s'arrêter sur chacune. L'autre jour, on a évoqué un petit peu le match de Séville 82 avec la sortie hasardeuse, nous aviez-vous dit, de Schumacher contre Battiston. voudrais parler de la Coupe du Monde 86. Cette Coupe du Monde, voilà, je vous vois lever les yeux au ciel, soupirer, c'est une Coupe du Monde...
La plus belle. La plus belle pour la France. La plus belle équipe, digne de 98. Une équipe extrêmement complémentaire, avec un entraîneur qui s'appelait Henri Michel, qui a su gérer intelligemment ses stars. Ils ont terminé demi-finaliste de la Coupe du Monde. C'était dans un endroit, c'était dans un pays extrêmement chaleureux.
Le Mexique.
Le Mexique. Les stades étaient pleins à craquer. Tous les matchs. Il y a une culture du football au Mexique qui est fabuleuse. Et donc, c'est vrai que là aussi, entre Luis Fernandez, Michel Platini, Alain Giresse, Joël Batz, Max Bossis, il y avait des joueurs incroyables, Dominique Rocheteau, il y avait aussi Jean-Pierre Papin qui débutait en équipe de France. C'est difficile de trouver les qualificatifs parce que c'était aussi une Coupe du Monde, je veux dire, très excitante, passionnante. Moi, de toute façon, toutes les Coupes du Monde m'excitent. Toutes, sans exception.
Mais c'est amusant parce que vous nous en parlez en spectateur, Jacques Vendroux. Vous nous parlez de tous ces matchs comme, j'allais dire, comme n'importe quel Français.
Comme spectateur. J'ai commenté comme supporter. Je vais pas, moi, à 70 ans, vous dire que je me suis donné un genre, que j'avais une certaine forme de déontologie quand je commentais l'équipe de France de football, qu'il fallait pas être partisan. L'auditeur voulait qu'on soit partisan. L'auditeur voulait qu'on soit derrière l'équipe de France de football. L'auditeur voulait qu'on soit supporter de l'équipe de France de football. Vous imaginez, sur les antennes de Radio France, vous commentez une demi-finale de l'équipe de France de football ou la finale de la Coupe du Monde de football en souhaitant que le Brésil batte la France en 98 et en souhaitant qu'en demi-finale, la France, je parle de la Coupe du Monde du Mexique, perde. C'est impossible. L'auditeur, il n'attend pas ça. Mais il attend ça. Nulle part, l'auditeur, quand vous avez votre équipe nationale qui joue, il veut que vous soyez partisan. Et je ne vais pas vous dire maintenant que j'avais pris de la distance, que je faisais attention à ce que je disais, qu'il fallait faire gaffe à notre vocabulaire, et qu'il fallait faire attention, et qu'il fallait garder une certaine déontologie, de rester loin de tout ça, en disant « attention, on va nous accuser de favoritisme, etc. » Pas du tout. Et je l'assume. Et je l'ai toujours assumé. Et je l'assumerai encore.
Mais je ne voulais pas vous interroger sur la déontologie ou sur le partisanisme de vos commentaires, mais plutôt sur le fait que vous étiez, en 86, la Coupe du Monde, vous étiez aussi quand même quelque part au travail. Le matin, vous deviez vous préparer les journaux, préparer vos papiers, aller interviewer des joueurs.
On travaillait. Attendez, je reviens.
Là-dessus que je voulais vous entendre sur les conditions de travail.
Mes conditions de travail extraordinaires. On avait un studio à l'hôtel où on était. On est journaliste la journée. On fait nos reportages, on fait nos interviews, on fait nos magazines. Et le soir, on commente. Mais on peut tout faire. On peut réaliser tout ça, je veux dire, dans la joie et la bonne humeur, comme on dit. Je veux dire, si vous prenez au sérieux, parce que vous êtes au Mexique ou en France pour la Coupe du Monde de 98, il faut faire un autre métier. Hein, si vous y croyez que vous allez délivrer un message de je sais pas quoi d'ailleurs. Il faut... Le sport, le foot, donne du bonheur aux gens. Et nous, moi, j'ai considéré qu'en commentant les matchs de l'équipe de France, notamment, ou les matchs de Ligue des Champions, l'époque de Saint-Étienne, etc., j'ai considéré qu'on leur donnait du bonheur quand ils nous écoutaient. Je ne dis pas qu'on était les meilleurs. Je ne dis pas que on était les meilleurs journalistes du monde, etc. Non, on l'a fait naturellement avec Jean-François Rhin, avec Pierre-Louis Castelli. On a fait ça naturellement parce que on était content d'être là.
Mais dans les conditions de travail, il y a aussi une chose qui est importante dans cette Coupe du Monde, peut-être en particulier, ou dans ces années-là, c'est qu'on peut voir des photos sur lesquelles on vous voit, avec tous les joueurs que vous avez nommés, puisque tous ces joueurs, qui jouaient déjà aux variétés Club de France avec vous, que vous connaissiez depuis les années de Saint-Étienne pour certains, les années de Nancy, de Bordeaux, que vous aviez suivies, tous ces Platini, Giresse, Batz et Six. C'était des amis pour vous, donc vous étiez dans une proximité très immédiate avec eux. Ça, c'est quelque chose qui a énormément changé depuis 30 ans. On voit des photos sur lesquelles on voit Thierry Roland, vous-même, et puis vos concurrents, peut-être Sacco Mano ou quelques autres. Tout ce monde-là vivait un peu comme une famille.
Quelque part, on faisait le même métier. C'est-à-dire qu'il y avait les footballeurs, et les journalistes. Et on s'entendait bien. Et nous, il nous arrivait, par exemple, de demander à Hidalgo ou Henri Michel de profiter du terrain d'entraînement de l'équipe de France de football pour aller faire un petit 6-6 entre nous. Vous voyez, dans des conditions bonnes, puisque c'était les terrains d'entraînement de l'équipe de France. Oui, c'est vrai qu'on était... Bon, une famille, il faut pas exagérer, parce que quand il fallait dire que... vous savez, un jour, Tigana dit « Moi, je joue pas parce que Platini m'aime pas ». C'est sorti sur France Inter, j'ai mis un peu la pagaille quand même dans le groupe de l'équipe de France. Mais bon, ils n'étaient pas contents, mais ça n'est pas très loin. Parce qu'en fait, Tigana avait dit la vérité. Et donc, il avait dit à sa manière, peut-être que c'était pas les bons mots, peut-être que... Mais c'était vrai, Platini était le patron de cette équipe.
Et ça, ça vous a pas... Alors là,
pas du tout.
Reparlons de cet problème de déontologie, d'amitié.
Mais
quand Tigana vient vous voir, est-ce que ça vous embête vis-à-vis de Platini?
Mais pas du tout. Parce que je préviens Platini. Et Platini, ça le fait marrer.
Et il répond sur l'antenne de France Inter.
Voilà, en disant, mais il dit n'importe quoi, etc., etc. Donc, je veux dire, moi, de toute façon, j'assume tout ce que j'ai fait. J'assume. Alors, si on peut me reprocher que j'étais trop copain avec les joueurs, que j'aurais dû peut-être prendre un petit peu de recul, etc., notamment dans les matchs de foot, ou concernant éventuellement les affaires de foot, moi, je ne regrette rien.
Les affaires de Platini, par exemple.
Voilà, mais je ne regrette rien. Voilà. Rien.
Et alors, pour finir sur cette Coupe du Monde 86 et sur le métier, tout de même, vous nous disiez en début de semaine, Jacques Vendroux, que le football, qui avait évolué depuis que vous le suiviez, vous l'aimiez toujours autant. C'était votre passion. Oui. Et quel que soit le football, vous n'étiez pas dans une posture d'ancien combattant, de nostalgie, et que vous aimiez toujours le foot. Mais sur votre métier de journaliste sportif, pas seulement de commentateur, mais de journaliste sportif... En général, depuis 86, quand on regarde cette Coupe du Monde 86, le métier a énormément changé, puisqu'aujourd'hui, la proximité avec les joueurs n'est plus possible. Les joueurs sont entourés...
Elle est différente.
Les joueurs sont entourés de conseillers en communication, toutes les paroles sont verrouillées, les journalistes sont peut-être beaucoup plus nombreux.
Alors
aussi.
Attendez. Là, il faut être clair. La vie, en règle générale, la société, en règle générale, évolue. Le football, il évolue d'une manière positive et négative, comme la CGT évolue, comme Radio France évolue. C'est une évolution normale de la société et de la vie. Donc le foot, il évolue. Bon, le joueur était très abordable il y a 20 ou 30 ans. Il l'est beaucoup moins, mais vous l'avez quand même assez régulièrement à votre micro. C'est-à-dire qu'au lieu d'appeler le joueur directement, vous appelez l'agent qui vous arrange le coup. Moi, j'étais voir Zidane il y a environ 3 ou 4 mois, ça a duré un quart d'heure. J'ai appelé son agent, j'ai demandé rendez-vous, l'agent me connaissait très bien, c'était l'ami Gliasio, Zidane me connaît bien, etc. On l'a eu, je l'ai eu pendant 37 minutes pour faire une interview pour la Coupe du Monde, qui va passer sur les antennes de France Bleu et de France Info. Donc, si vous voulez, il ne faut pas dire que tout a changé. Il faut dire que les choses ont évolué, que les choses sont peut-être plus canalisées, peut-être que les choses sont plus sérieuses, parce qu'il y a plus d'argent, parce qu'il y a plus de retransmission, parce que les joueurs ont une pression d'enfer, parce que le football français devient aussi quelque part plus professionnel dans son organisation, donc il faut faire attention qu'il n'y ait pas des écarts. Je dis que ça a changé, évidemment, mais ça n'a pas changé sur le fond. Le fond, le foot est toujours passionnant. Le fond, il y a toujours des matchs de barrage spectaculaires. Le fond, il y a toujours un champion. Il y a toujours un club qui descend. L'état d'esprit n'a pas changé. Ce qui a changé, en revanche, c'est que, bon, il y a beaucoup plus de médiatisation qu'il y en avait. Voilà. Ronaldo, c'est Johnny Hallyday. Ronaldo, c'est Frank Sinatra. Enfin, je veux dire, c'est des stars mondiales. C'est des stars planétaires. Voilà. Et donc, avec les stars, vous ne pouvez pas les approcher quasiment du jour au lendemain. Il faut que ce soit un tout petit peu organisé quand même.
Est-ce que pour la France, c'est 1998 qui a fait changer tout ça? Je voudrais que vous nous racontiez un peu votre Coupe du Monde 98. Avec pour Radio France quelque chose d'un peu particulier que vous aviez mis en place. C'était une antenne de radio totalement dédiée à la Coupe du Monde.
Nous avons créé une chaîne de radio.
C'est-à-dire avec une fréquence
hertzienne. Sur les ondes longues de France Inter. Avec Gilbert Denoyant et Michel Boyon, qui était le président à l'époque, on a créé une radio éphémère de 50 jours. On a retransmis les 64 matchs. On avait des consultants incroyables qu'on payait, mais vraiment quasiment une poignée de main. Ça allait de Yannick Noah, ça allait de Jean-François Domergue, de Jean Tigana, d'Alain Giresse, de Serge Blanco, d'Alain Delon. On avait des consultants qui sortaient de l'ordinaire, on a retransmis tous les matchs, et on croyait à cette victoire de l'équipe de France. Donc, alors là, vous parliez de famille. On était de la même famille. On voulait que la France aille très loin. Elle a été très loin, elle a joué contre le Brésil, et elle a gagné. Et donc, cette radio est un souvenir incroyable.
Mais c'était une radio avec une matinale.
Mais c'est une radio qui commençait le matin à 6h, et qui s'arrêtait le soir à 2h du matin. Vous savez que le soir de minuit à 2h du matin, vous aviez, il est devenu notre président par la suite, une des grandes voix de la radio de l'époque s'appelait Jean-Luc Hesse, eh bien il animait gratuitement 2 heures d'émission sur le foot. Il y connaissait rien, mais il faisait des émissions. Vous aviez Christophe Ondelatte, qui était le présentateur vedette de France Inter, il venait faire le 8h tous les matins sur cette radio éphémère. Tout le monde a travaillé. Tout le groupe Radio France, je me souviens même qu'il y a des journalistes de France Culture qui sont venus faire des billets sur cette radio éphémère pendant 50 jours. On avait créé une rédaction dans le Grand Hall, le public venait nous voir. C'était fabuleux, fabuleux, magique, magique.
Vous ne souscrivez pas à l'idée que la France n'est pas un pays de football, Jacques Vendroux ?
Jamais. C'est un pays de football, c'est un pays de sport. Si vous regardez sur ces 15 dernières années, on a organisé les plus grandes compétitions possibles et inimaginables. Et puis, il y a aussi un élément qui est extrêmement important. Quand vous dites que nous sommes un pays de football, oui, bien sûr, nous sommes un pays de sport. Et on a eu une chance incroyable, les auditeurs de France Culture doivent le savoir. C'est-à-dire que tous les présidents de la République étaient des fondus de sport. De Georges Pompidou, en passant par François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron. Ils adoraient le foot, ils adoraient le vélo, ils adoraient le sport en général. Il n'y en avait qu'un qui, visiblement, c'était pas du tout sa culture, c'était Valéry Giscard d'Estaing, qui n'était pas anti-sport, mais enfin, c'était pas sa... Allez, on va dire, c'était pas sa passion numéro un. Alors que vous prenez n'importe quel président que je viens de nommer, je veux dire, ils adoraient le sport, ils adoraient les sportifs, et donc ça nous a facilité forcément les choses pour tenter un maximum et d'avoir les moyens pour construire des stades, pour rénover les stades pour 98, pour rénover les stades pour 84, etc. Enfin, je veux dire, je crois que le sport français doit beaucoup à tous ces différents chefs d'État qui étaient des passionnés de sport et de football en particulier.
C'est un de vos jolis coups, Jacques Vendroux, d'avoir réussi à interroger pendant une demi-heure chacun, les deux candidats finalistes de l'élection présidentielle de 2012, en pleine campagne, sur leur rapport au sport, Sarkozy et Hollande. Entre les deux tours.
Ils sont venus à France Info, tous les deux, et une demi-heure avec François Hollande, une demi-heure avec Nicolas Sarkozy, et quelques années plus tard, on a fait aussi le programme sportif de tous les candidats à la présidence de la République avant l'élection présidentielle. Oui, c'est vrai. Mais le sport réunit. Quand vous appelez les collaborateurs de Sarkozy ou les collaborateurs de Hollande pour dire « Voilà, vous ne parlez jamais de sport. Dans vos campagnes présidentielles, jamais vous avez un mot sur le sport. Jamais vous avez un mot sur le budget que vous allez donner au sport, etc. » Venez en parler à Radio France. Ils ont tous accepté les uns après les autres, sans aucune discussion. Après, je leur ai posé la dernière question sur le fameux interview entre Hollande et Sarkozy. J'ai dit à Sarkozy, mais dans une autre vie, qu'est-ce que vous auriez aimé faire ? Il m'a répondu, je voulais gagner le Tour de France. D'accord ? Et à François Hollande, dans une autre vie, qu'est-ce que vous auriez aimé faire ? Il m'a dit, je voulais être l'avant-centre du Football Club de Rouen.
Et vous, Jacques Vendroux, dans une autre vie sportive, qu'est-ce que vous auriez aimé faire ? Hors Gordon Banks, allez, un autre.
Je veux dire, ça va vous sembler très étonnant, j'ai réalisé tous mes rêves. Tous mes rêves. De côtoyer des gens qui sortent de l'ordinaire, de côtoyer des grands journalistes, de côtoyer... Vous savez, je le répète et je ne les remercierai jamais assez, j'ai pu faire ce métier pendant près de 52 ans, plus de 52 ans, parce qu'on m'a fait confiance et parce qu'on a laissé libre ma folie. mon arrogance, mon côté provocateur, mon côté passionné, mon côté, j'espère, un peu professionnel. On m'a laissé libre. On m'a jamais fait un règlement. On m'a laissé libre. Et j'ai pu réaliser plein de choses. Et je dois dire que c'est vrai, dans quelques mois, je vais arrêter. Mais je vais arrêter sans aucun regret. Parce que j'aurais eu la chance d'avoir pratiquement tout fait, professionnellement. Parce que on m'a donné les moyens de tout faire. J'aurais pas pu le faire tout seul. Il fallait que je dépende d'un grand groupe, et ce grand groupe, c'était Radio France.
Et cette dernière Coupe du Monde que vous commentez, est-ce que vous voyez la France aller loin ?
Oui.
Au bout ?
Oui. Ce serait bien. Hein. Je termine sur la France championne du monde et la passation de pouvoir entre 98 et les mecs de 2018, c'est-à-dire 20 ans après.
Eh bien, rendez-vous dans un mois. Merci beaucoup, Jacques Vendroux.
Merci à vous.
Fin de cette rencontre de Victor Massé de l'Épinay avec Jacques Vendroux. À voix nue, réalisation Anne Pérez, prise de son Yves Lehors, coordination Claire Poinsignon. À voix nue, s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.